De la chaleur exceptionnelle engendrant de la sécheresse, des canicules, des restrictions en eau et des pertes de récoltes, mais aussi une accélération de la fonte des glaciers ou encore des tempêtes violentes occasionnant dégâts sur dégâts, bah ça c'est la réalité, hein. Elle n'est pas super réjouissante. Mais il y a pire, un courant océanique qui se dérègle et c'est tout l'hémisphère nord qui sombre sous des dizaines de mètres de neige et de glace. Ce scénario vous dit peut-être quelque chose, il s'agit du film Le jour d'après. Ce scénario est-il envisageable? Faut-il s'attendre au pire? Bien, les conséquences des changements climatiques se font ressentir de plus en plus, et parfois même plus rapidement que prévu. Nous avons pu malheureusement l'expérimenter cet été, et même encore en ce mois d'octobre, chez nous, en France, et un peu partout dans le monde. Est-ce que la réalité n'est-elle pas en train de rejoindre la fiction? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. En tout cas, vous l'aurez compris, dans cet épisode, nous parlerons de climat, et pas forcément de choses très réjouissantes. Nous serons un petit peu catastrophistes, entre guillemets, mais, eh bien, il faut un petit peu passer par là. Bienvenue dans un nouvel épisode dont n'est pas des Einstein, mais tout est relatif, générique.
Une émission radiophonique, scientifique, podcastique et radioactive.
On n'est pas du tout des Einstein.
Après, tout est relatif.
Alors aujourd'hui nous parlerons de climat, et désolé d'avance mais les actualités ne sont pas forcément des plus réjouissantes, et on va traiter des problèmes et des risques que nous encourons, et parfois, eh bien, vous allez voir, la réalité peut avoir un petit goût de scénario catastrophe. Alors aujourd'hui nous sommes deux dans le studio, il y a avec moi donc Didier Chavaroche.
Bonsoir Florent, bonjour Florent.
Eh bien merci, donc nous sommes fin octobre, hein, l'épisode 2 de la saison 2, avec un petit peu de retard. D'habitude l'épisode est diffusé au début du mois, et ce mois-ci exceptionnellement nous le diffusons à la fin du mois. En tout cas, juste un petit mot, suivant la plateforme où vous écoutez cet épisode, que ce soit sur les réseaux ou bien sur d'autres plateformes diverses et variées, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à mettre 5 étoiles si vous aimez notre podcast ou notre émission radio. N'hésitez pas à en faire part. Par exemple, bien, nous sommes diffusés sur la radio locale RBA FM, radio qui est diffusée dans le Cantal mais également en Corrèze et dans le Puy-de-Dôme. Donc n'hésitez pas à nous faire part de votre contentement ou mécontentement aussi, hein. On prend aussi les avis négatifs sur la page Facebook d'RBA FM et de l'émission On n'est pas des Einstein mais tout est relatif.
Ouais, n'hésitez pas, on n'est pas susceptible.
Voilà, on n'est pas susceptible, on prendra tout. Voilà. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on parlera de climat et des choses qui ne sont pas forcément très réjouissantes. C'est le sujet donc du thème, enfin c'est plutôt le thème de la saison 2, le climat, le changement climatique. Et on va parler de tout un tas de choses qui ne sont pas forcément très réjouissantes, c'est sûr, mais on fera également des épisodes pour parler des solutions qui sont mises en œuvre ou qu'on peut mettre en œuvre plus tard pour pallier ce problème de réchauffement climatique. Alors, on va commencer par les actualités au niveau de ce climat. Ça vient d'une nouvelle étude de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, la NOAA, N-O-2-A, qui prédit que 2023 sera avec quasi-certitude l'année la plus chaude jamais enregistrée, encore un nouveau record. Donc selon la NOAA, la température mondiale en septembre 2023 était de 1,44 degrés au-dessus de la moyenne du XXe siècle. C'est le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré, en tout cas qu'on a eu cette année, et de loin. Donc la température moyenne mondiale sur les 9 premiers mois de 2023 est de 1,4 degrés au-dessus de la moyenne du XXe siècle. C'est seulement 0,01 degré derrière 2016, l'année la plus chaude jamais enregistrée auparavant. Alors, bon, il y a également cette année à prendre en compte le fait que pour trouver des solutions, il y a la COP28 qui se tiendra à Dubaï en novembre, hein, là, 2023. Donc ce sera l'occasion importante pour les pays du monde, hein, de s'engager et de prendre des mesures concrètes pour lutter contre ce réchauffement climatique, sachant qu'on, entre guillemets, on fait péter les records, hein, de plus en plus, et à chaque mois et à chaque année. Donc l'étude de la NOAA, c'est une nouvelle alerte, hein, sur l'urgence de la situation climatique.
Ouais, j'ai une question.
Dis-moi.
Ils n'avaient pas dit, genre, à la COP21, ils n'avaient pas dit qu'il ne fallait pas dépasser 1 degré ou quelque chose comme
Alors,
ça ?
Alors, 1,5 degré, c'était ce qui avait été décidé, hein, pour éviter de trop gros changements globaux. Il ne fallait pas dépasser 1,5 degré. Et justement, c'est une étude qui a été faite par Berkeley Earth, c'est un institut de recherche américain qui étudie les changements climatiques, eh bien, on va dépasser ces 1,5 degrés. Dans son dernier rapport qui a été publié le 11 octobre, c'est tout récent, l'institut il estime en fait qu'il est presque certain à nouveau que 2023 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée, donc ça c'est ce que je viens de dire à l'instant, mais par contre les données, et ça c'est inédit, montrent que la température moyenne mondiale en septembre était donc de plus 1,82 au-dessus de la moyenne de l'ère pré-industrielle cette fois-ci, donc c'est un record absolu, hein, c'est ce que je disais juste avant mais j'avais pas donné les chiffres, mais selon Berkeley Earth, le seuil de 1,5 degré de réchauffement sera franchi en 2023 avec une probabilité de 90%. Et ce seuil, eh bien, est considéré comme un point de bascule important car il pourrait entraîner des effets climatiques irréversibles tels que fond des glaciers, élévation du niveau des mers, etc. Alors, Berkeley Earth explique que les modèles de prévision climatique ont sous-estimé le réchauffement à court terme. Et des choses comme les émissions d'aérosols, l'éruption de certains volcans et d'autres facteurs n'ont pas été pris en compte dans les calculs, alors qu'il aurait fallu le faire. Donc la chaleur excessive des régions polaires, par exemple, hein, en particulier dans l'Antarctique, a également contribué au réchauffement record de septembre 2023. Donc on a un réchauffement global qui est avéré, on va très certainement dépasser les 1,5 degrés de moyenne de surplus, et donc pour l'instant ce n'est pas forcément un bilan qui est très très positif, et ça s'accélère, c'est-à-dire que c'est plus rapide que ce à quoi on s'attendait et ce à quoi les scientifiques s'attendaient dans les scénarios prévus. Quoi.
Ouais, c'est flagrant quand même, c'est impressionnant quoi, parce qu'ils avaient estimé 1 degré en 2021. Là, deux ans plus tard, on est déjà à 1,5.
1,5. Il ne fallait pas qu'on dépasse les 1,5 de moyenne. Oui, c'est ça.
Ouais. Deux ans plus tard, on est déjà à 90%. Quoi.
Alors, on va dépasser à 90% de certitude, plus de 90% de certitude, on va dépasser ces 1,5 degrés de moyenne. Donc, c'est en rapport à la moyenne de l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire avant. D'accord. Il faut savoir qu'on a déjà dépassé, on a déjà dépassé les 1 degré de moyenne. Là, on va dépasser un nouveau seuil, si tu veux. Alors, il me semble, Didier, toi, tu voulais me parler de l'Antarctique.
Une étude publiée dans la revue Science Advances le 12 octobre révèle que 40% des barrières de glace de l'Antarctique ont perdu du volume entre 1997 et 2021.
Alors, qu'est-ce que tu appelles une barrière glaciaire, justement ? C'est quoi ?
Alors, les barrières de glace, eh bien, ce sont des plateformes de glace qui reposent sur la terre ferme et qui flottent sur la mer. Donc, elles jouent un rôle important dans la régulation du niveau des océans en empêchant la fonte des glaciers, justement.
D'accord. Donc, il y a une partie de la glace qui est sur la terre et une partie qui flotte.
Et une partie qui flotte, ouais.
D'accord, ouais.
Donc, en fait, vu que c'est sur la Terre...
C'est-à-dire que vu que c'est sur la Terre, si ça fond, l'eau, elle va dans l'océan.
Elle va dans l'océan, voilà.
D'accord, donc c'est ce qui contribue à la...
Ça contribue un peu à l'élévation du niveau de la mer. La perte de masse est particulièrement importante sur la côte ouest de l'Antarctique, où la barrière de Gates, par exemple, a perdu près de 2000 milliards de tonnes de glace. En fait, ces barrières, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont constituées d'eau douce, qui en fait vient du glacier, qui est alimenté par le glacier, qui va progressivement aller vers la mer. En fondant, en fait, l'eau douce va alimenter, va rejoindre l'eau de mer, en fait. Et va donc contribuer à l'élévation du niveau des océans.
Et donc, si elles se déversent dans l'océan, enfin, si elles fondent, elles vont se déverser dans l'océan.
Elles ajoutent de l'eau à l'océan, en fait.
Elles ajoutent de l'eau à l'océan.
Ce qui fera monter le niveau.
D'accord, ouais. Et j'imagine que, vu que c'est de l'eau douce, potentiellement, sur des zones localement, ça peut avoir une incidence sur l'eau salée, du coup, et très certainement aussi sur la température, sur plein de choses. Peut-être aussi.
Eh bien oui, car l'eau douce, en fait, quand on la mélange à de l'eau salée, enfin, elle ne se mélange pas systématiquement. Ça peut créer, en fait, une déstabilisation un peu de l'eau de mer.
Et puis aussi le fait que l'eau douce, elle est plus légère. Enfin, du coup, c'est ce qui va se passer, c'est que l'eau salée mélangée avec de l'eau douce, j'imagine que l'eau, elle est rendue plus légère. Et dans ces cas-là, elle coule moins facilement vers le fond. Et ça engendre des problèmes aussi au niveau des courants marins. Ça va influencer les courants marins, j'imagine.
Les courants, et oui, exactement. les courants marins, en fait, sont des courants à l'intérieur de la mer qu'on ne voit pas.
Dans les océans.
Mais évidemment, la différence de densité avec l'eau douce, l'eau et l'eau salée, en fait, ça va influer ces courants, ça va les dévier, créer de nouveaux courants.
Oui, parce qu'il faut préciser, je donne une petite précision, que les courants océaniques, ils sont très importants, hein, puisque c'est ce qui va permettre de transporter des nutriments, du carbone, mais aussi de la chaleur. Et c'est-à-dire que si ces courants-là sur des très grandes surfaces, il y a une influence de plusieurs, s'il y a plusieurs millions de tonnes d'eau douce qui vient modifier la densité de l'eau et donc modifier les capacités de l'eau à se déplacer correctement, ça va avoir une influence sur les courants marins et donc une influence sur le climat global. Et ensuite, ça, c'est la boucle infernale, c'est-à-dire que c'est... influence donc changement climatique, etc., etc. Voilà, donc
c'est la boucle infernale. Donc
c'est-à-dire que dans le climat, il y a des seuils. Les scientifiques ont délimité des seuils bien précis à ne pas dépasser, et si on dépasse ces seuils, c'est ce qui va engendrer donc un phénomène de boule de neige, et le climat s'emballe, et ainsi de suite. Et parmi ces seuils, donc la fonte des glaciers au niveau global, ça fait partie des seuils à ne pas franchir. Parce que justement, ce genre de barrière glaciaire, si elle fonde, ça engendre à nouveau un phénomène qui va faire boule de neige et ainsi
voilà,
de suite.
Voilà, ça va participer à. On peut parler d'effondrement, quoi.
Moi, je vais parler cette fois-ci d'un autre phénomène qu'on a connu cette année, qu'on a connu depuis déjà quelques temps, le phénomène de sécheresse. On a des canicules. Canicule ne veut pas dire forcément sécheresse. C'est-à-dire on a une période de température très élevée pendant quelques jours, semaines. Mais il y a également un phénomène qui est lié au manque d'eau. C'est ce qui s'appelle la sécheresse. Alors, selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, près de la moitié de la population mondiale a subi des conditions de sécheresse en 2022. Et bien, donc ça, c'est par rapport au rapport de l'année d'avant. Et cette année, je pense qu'on sera également sur un rapport tout aussi négatif. Cette sécheresse a touché tous les continents. Mais elle a été particulièrement grave en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Il faut savoir que la sécheresse a des conséquences dévastatrices sur l'environnement, l'économie et la société. Donc elle peut entraîner des pénuries d'eau, des pertes de récoltes, des migrations et des conflits. Hein. On l'a vu par exemple nous en France avec les restrictions en eau qu'on a pu connaître dans le Cantal.
Tout le monde devait faire des restrictions, arroser ses piscines, etc.
Voilà, pas de piscine, pas d'arrosage.
C'est ce que j'ai dit, mais...
Arroser les piscines, ouais.
il fallait pas arroser sa pelouse,
l'arrosage des pelouses, etc., etc. Alors, il y a des solutions qui existent, hein, comme planter des arbres. Il faut savoir que les arbres aident à retenir l'eau et à réduire l'évaporation. On peut construire aussi des réservoirs d'eau. Mais attention, les réservoirs d'eau peuvent stocker l'eau pour des périodes de sécheresse, hein, d'accord. Mais attention, les réserves d'eau peuvent cependant poser des problèmes par rapport aux écosystèmes. Alors le mieux, ce serait de promouvoir la restauration des zones humides, qui sont de véritables zones tampons en cas de sécheresse ou à contrario aussi en cas de crue. Donc favoriser en fait la restauration de zones naturelles plutôt que de fabriquer des réserves d'eau gigantesques où la vie serait complètement laissée de côté et les écosystèmes complètement laissés de côté.
Donc ça voudrait dire qu'il n'y a pas forcément moins de précipitations qui...
En fait, tu parles des réserves d'eau.
Si on fait la restauration de zones d'eau naturelles, on ne peut pas les alimenter, comment dire ?
Si justement, en fait, de base, les zones humides, qui sont totalement naturelles, hein, sont des zones tampons naturelles, c'est-à-dire s'il pleut trop, il y a trop de crues, elles vont retenir l'eau, et s'il y a de la sécheresse, ça fait une réserve d'eau. Le problème, c'est que les zones humides, en France par exemple, on les a énormément détruites pour faire tout un tas de choses. Hein. Par exemple, les marais qu'il y avait dans le sud-ouest de la France, on a fait des forêts de pins. D'accord. On a enlevé toutes les zones humides. Avant, c'était mal vu aussi les zones humides. C'était mal vu. C'était l'endroit où résidait le diable, les bêtes. Il y a beaucoup de moustiques. Voilà, on n'aime pas. Mais aujourd'hui, comment ? Shrek qui est dans, dans une zone humide. Voilà, dans les marécages, c'est pas bien, c'est mauvais. Alors qu'en fait, c'est très, très utile aux populations et résoudre les problèmes de sécheresse, notamment en France, par exemple, bah, l'une des solutions serait de restaurer donc, ces zones humides et qui permettrait justement d'avoir une zone qui jouerait le rôle de tampon. Et même dans le sud de la France, où il y a par exemple beaucoup d'inondations à certaines périodes, comme septembre, octobre, eh bien, ces zones-là, en étant restaurées, pourraient permettre de recueillir toute l'eau en surplus et d'éviter des désastres humains et sociaux et également économiques. Bon, il y a d'autres solutions. On peut améliorer l'efficacité de l'irrigation dans l'agriculture. Hein. L'irrigation, c'est une source importante de consommation d'eau. Et si on améliore l'efficacité de l'irrigation, on peut permettre de réduire la quantité d'eau utilisée. Bon, c'est un exemple. On peut également développer des cultures qui sont résistantes à la sécheresse. Des cultures résistantes à la sécheresse peuvent mieux résister aux conditions de sécheresse. Bon, bref, il y a énormément de solutions pour s'adapter, en fait. C'est un vrai problème qu'il va falloir résoudre dans les prochaines années.
Une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Climate Change, montre que la déforestation perturbe le climat sur de grandes distances. En fait, les forêts jouent un rôle important dans le cycle de l'eau et le climat, en absorbant le CO2 et en produisant de la pluie. Lorsque les forêts sont détruites, ces processus sont perturbés, ce qui peut entraîner en fait des changements météorologiques extrêmes. L'étude a examiné les données de déforestation et de climat de 1950 à 2010. Les chercheurs ont constaté que la déforestation a entraîné une augmentation des températures et une diminution des précipitations dans les régions environnantes. Ces changements ont été observés jusqu'à des milliers de kilomètres des zones déboisées. Par exemple, la déforestation en Amazonie a entraîné une augmentation des températures de surface de 0,2 à 0,4 degrés Celsius dans la région amazonienne et les régions voisines. La déforestation en Afrique a entraîné une diminution des précipitations de 10 à 20% dans les régions voisines. Les chercheurs ont conclu que la déforestation est un facteur important du changement climatique. Ils ont appelé à des mesures pour réduire la déforestation et la restauration des forêts.
Si je comprends bien, c'est ce qu'on disait, ce que je disais, l'une des solutions pour lutter contre la sécheresse, ce serait de planter des arbres, de développer les forêts, planter des arbres. Eh bien là, on a un bel exemple. On voit l'exemple par exemple, dans les villes, de planter des arbres dans les villes permet d'avoir une sorte de climatisation naturelle, c'est-à-dire que un bitume va chauffer, etc., renvoie pas forcément la lumière. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'albédo. Hein, l'albédo, c'est le fait de renvoyer de la lumière et donc de garder ou pas la chaleur à certains endroits. Ben là, ce que tu viens de nous donner comme exemple, c'est le fait que les arbres, dans des grandes forêts comme l'Amazonie, si on les enlève, si on les coupe, on a un réchauffement global. Local plutôt, du coup, ici local. Et dans les villes, eh bien, c'est pareil, si on coupe des arbres dans les villes, on va engendrer un réchauffement local de la température, parce qu'un arbre, c'est un albédo, qui est donc l'albédo, la réflexion de la lumière du soleil, et donc le maintien ou pas de la chaleur à certains endroits. Localement, un arbre va faire chuter la température. Donc si on veut maintenir des villes avec des températures moyennes qui soient correctes, vivables, ben, plantons des arbres.
Il faut planter les arbres.
Voilà. Éviter d'en couper aussi. Le sujet d'aujourd'hui, les événements météorologiques extrêmes, c'est ce dont nous allons parler. Est-ce que le film Le jour d'après est un film dont le scénario serait possible? Est-ce que la réalité n'est-elle pas en train de rejoindre la fiction? Le jour d'après, c'est un film catastrophe américain, réalisé par Roland Emmerich, et sorti en 2004. Le film évoque les aventures du paléoclimatologue Jacques Hall, joué par Dennis Quaid, et de ses deux collègues qui effectuent une mission scientifique de routine en Antarctique le forage de carottes de glace. Cependant, le plateau de glace se détache soudain du reste du continent. Alors, il y a des dérèglements climatiques importants qui se produisent sur la planète, des hélicoptères qui s'écrasent à cause de tempêtes gigantesques et de températures pouvant dépasser les moins 93 degrés, et des énormes grêlons qui frappent Tokyo, ou encore des tornades gigantesques qui détruisent Los Angeles et New York. Nous sommes dans un vrai scénario catastrophe.
Et si...
Sam, est-ce que ça va ?
Un jour.
Il a la trouille en avion.
Je vais très bien.
Un événement changeait le monde entier.
Allô ?
Pardon de vous appeler si tôt.
Vous vous souvenez de votre intervention à New Delhi sur la fonte de la calotte polaire qui pourrait perturber le courant Atlantique Nord ?
Oui.
Je crois que c'est ce qui se passe.
Alors ce courant Atlantique Nord dont parle l'extrait du film qu'on vient d'écouter, hein, c'est un extrait du film Le Jour d'Après qui est sorti en 2004, et bien ce courant Atlantique Nord c'est ce qui s'appelle le Gulf Stream, et si en vrai il s'arrêtait pour de vrai, et si donc le scénario du film rejoindrait la réalité, est-ce que la fiction n'est-elle pas en train de rejoindre donc la réalité? Alors juste un petit point, oui Didier.
J'allais dire... Ça n'a pas de sens. Comment un réchauffement climatique
engendrerait un refroidissement comme
un
ça.
Refroidissement.
Alors, déjà, il faut faire un petit point sur le film, parce que tu parles de refroidissement. En effet, dans le film, justement.
Ah ouais, on avait parlé du. Ouais.
Et oui, justement, ce qui se passe dans le film, eh bien, il y a des immenses marées, enfin, des immenses, vagues, si tu veux, et des villes entières comme New York qui sont ensevelies sous l'eau, qui va geler immédiatement à cause d'un refroidissement soudain. Eh bien, justement, le réchauffement climatique. On parle plutôt de bouleversement climatique ou de changement climatique, puisque bien à cause de ce réchauffement global, il y a des courants d'eau comme le Gulf Stream qui peuvent éventuellement s'arrêter. Et donc là, c'est tout un courant d'eau hein, qui vient réchauffer l'air. Et puisque c'est un courant d'eau chaude, s'il s'arrête, il n'y a plus d'eau chaude et donc il n'y a plus de réchauffement de l'air et donc il y a un refroidissement à un endroit localement. Et cette modification de ce courant d'eau, en fait, il serait dû au fait que l'eau se serait refroidie due à la fonte, notamment des glaces. On en a parlé tout à l'heure,
oui,
en fait.
Oui,
hein.
Oui.
On parlait du fait qu'il y a de l'eau douce qui pourrait bouleverser ces courants marins, ces courants océaniques, et donc arrêter potentiellement ce fameux courant.
Et ces courants sont chauds, en fait.
Et ces courants pourraient s'arrêter.
C'est un peu comme la chaudière, si on coupait la chaudière. Quoi.
C'est un peu comme si on coupait la chaudière. Alors, on va discuter un petit peu de tout ça pas à pas et comment c'est possible. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça pourrait devenir réalité? Alors, un petit point sur le film. En fait, hein, le film, donc, c'est l'histoire d'un paléoclimatologue hein, qui s'appelle Jack Hall. Et avec ses collègues, eh bien, ils vont récolter des échantillons de calottes de glace. Des échantillons de carottes de glace sur le plateau de glace en Antarctique. Et on en parlait tout à l'heure, hein, mais c'est exactement ce que font les scientifiques à l'heure actuelle. Hein, et là, en fait, dans le film, bon, le plateau se brise, etc. Aujourd'hui, les plateaux glaciaires se brisent, on en parlait tout
oui,
à l'heure, ça c'est une réalité. Et en fait, quelques temps dans le film, après la catastrophe, lors d'une conférence, en fait, Jack il va mettre en garde contre le réchauffement climatique imminent, mais le vice-président américain, Raymond Baker, dans le film, est un climato-sceptique et il rejette ses préoccupations. Donc il alerte sur le fait qu'il pourrait y avoir le Gulf Stream, ce fameux courant océanique, qui pourrait se stopper et donc ce serait une catastrophe dans l'hémisphère nord. Et c'est ce qui se passe dans le film, il y a une catastrophe énorme avec tout ce qu'on disait tout à l'heure. Alors ce Gulf Stream, qu'est-ce que c'est exactement? Et aujourd'hui, est-ce qu'il est en train de s'arrêter? Est-ce qu'il est en train de se freiner? On va en discuter. Donc le Gulf Stream, c'est quoi? C'est un courant océanique chaud hein, qui circule de l'Atlantique tropical vers l'Atlantique Nord. Il a un impact majeur sur le climat de l'Europe et de l'Amérique du Nord en apportant de la chaleur et de l'humidité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et depuis quelques années, en fait, il y a des scientifiques qui s'inquiètent du fait que le Gulf Stream pourrait se stopper ou se ralentir. Alors ça aurait une conséquence du réchauffement climatique qui entraîne la fonte des glaces du Groenland et de l'Antarctique. Donc il y a une fonte des glaces du Groenland et de l'Antarctique qui engendre donc un refroidissement local, mais également une modification du courant on l'a dit tout à l'heure, avec de l'eau douce qui rejoint de l'eau salée, et donc il y a une différence de densité de l'eau.
D'accord.
Ah, et oui, l'eau qui devrait soit plonger, soit aller en surface à certains endroits, eh bien ne le fait plus. Et dans ces cas-là, si le Gulf Stream se stoppait, les conséquences seraient dramatiques pour l'Europe et l'Amérique du Nord, donc une bonne partie de l'hémisphère nord, et les températures chuteraient de manière significative, ce qui entraînerait des hivers très froids et des étés plus frais. Et là, c'est donc l'inverse du réchauffement, d'accord ? Ce serait plutôt un gros refroidissement qui serait engendré par le réchauffement. C'est pour ça qu'on parle plutôt de bouleversement climatique ou de changement climatique. Ouais. Alors, le scénario du film, hein, c'est un exemple de ce qui pourrait se passer si le Gulf Stream se stoppait. Dans ce film, il y a une série d'événements climatiques extrêmes qui frappent la planète, hein, dont une vague de froid intense qui paralyse l'Amérique du Nord, comme je disais tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, en fait, il est impossible de dire avec certitude si le scénario du film le jour d'après pourrait se réaliser, mais il est clair que le Gulf Stream est en danger et que son arrêt aurait des conséquences dévastatrices, comme un refroidissement de l'Europe, je le disais tout à l'heure, mais également une augmentation des risques de catastrophes naturelles, puisque la fonte des glaces du Groenland et de l'Antarctique entraîne une augmentation du niveau de la mer, ce qui peut entraîner des inondations sur des régions côtières et des glissements de terrain, des avalanches, etc. Mais également, ça pourrait perturber l'agriculture. Un refroidissement, eh bien, c'est un impact négatif hein, sur l'agriculture, avec des cultures qui pourraient être moins productives, mais également des migrations massives. On n'y pense pas assez souvent, d'ailleurs. Le réchauffement climatique et le refroidissement, le bouleversement, pourrait entraîner des migrations massives de populations, des personnes qui vivent dans des régions touchées hein, par des catastrophes naturelles ou des pénuries alimentaires pourraient être contraintes de quitter leur foyer. Donc en fait, dans des zones où il y aurait ce genre de refroidissement soudain, brutal, on aurait des migrations, mais également dans les zones où il ferait trop chaud, hein, puisque du coup, on aurait un refroidissement à certains endroits, trop brutal, mais également des chaleurs beaucoup plus élevées, trop élevées par rapport à la moyenne, dans d'autres régions du globe, comme en Inde, par exemple, où on pourrait dépasser les plus de 50 degrés, ou même en Arabie Saoudite.
Que d'avoir le froid extrême.
C'est ça. Donc, en même temps que d'avoir le froid extrême dans certaines régions. Donc, en fait, un climat qui serait complètement invivable dans beaucoup d'endroits de la planète. Alors, ça fait peur. Ça fait peur.
On dirait un climat cyclotimique.
C'est ça.
C'est soit trop chaud, soit trop froid.
Soit tout l'autre. C'est des bouleversements extrêmes, d'un extrême à l'autre. Ça. Alors, il y a une étude qui a été faite, qui est très récente, qui date justement du mois d'octobre. Des chercheurs américains qui viennent d'apporter la preuve que la vitesse du courant nord-américain a ralenti déjà de 4% lors des 40 dernières années. En fait, à la base, il y avait un rapport du GIEC, le groupe international d'experts intergouvernemental sur le climat. Ils avaient publié en fait un papier en 2022 qui présentait comme de faible confiance, c'est-à-dire... Alors c'est une terminologie, mais en gros, il y a une faible probabilité qu'il y ait un ralentissement de la circulation de ce courant. Mais, donc cette année, on a bien prouvé que le Gulf Stream a bien vu donc sa vitesse diminuer de 4% ces 40 dernières années. Et ça, c'est les résultats qui ont été publiés dans Geophysical Research Letters. Donc, la faible confiance se transforme en forte probabilité. Donc le Gulf Stream est bien en train de ralentir, et le scénario du film, c'est que le Gulf Stream est en train de se stopper quasiment.
Ouais.
Donc est-ce qu'il va continuer à ralentir, est-ce qu'il va stopper ? Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui peut se passer, mais en tout cas, si tous les indicateurs vont dans le sens d'un ralentissement ou d'un arrêt, comme ce qu'on parlait tout à l'heure avec les glaces,
les glaces dans l'Antarctique, les barrières qui s'effondrent et qui...
Exactement.
Et qui vont provoquer un effondrement, oui.
Exactement. Eh bien, c'est typiquement le genre de choses à ne pas dépasser, le genre de seuil à ne pas dépasser, c'est-à-dire éviter la fonte de ces glaces. Même, quoi. Voilà. Les fontes des glaces du Groenland aussi. Les Groenland, là, c'est un autre type de glace. C'est des glaces qui sont vraiment sur de la terre ferme.
Oui, comme en Antarctique.
En Antarctique, il y a une partie qui est sur de la glace, qui est déjà sur de la...
Oui, c'est les barrières, oui.
Les barrières, oui, qui sont déjà sur la banquise. Mais là, sur le Groenland, c'est vraiment sur de la terre ferme. Et si celles-là aussi font, ça va apporter de l'eau supplémentaire dans l'océan. Donc voilà, il y a des indicateurs qui montrent que le Gulfstream est en train de ralentir. Mais on n'est pas
coup,
encore
les catastrophes qui se passent dans le film vont se réaliser ou ça reste du film catastrophe.
Ça reste du film catastrophe évidemment pour l'instant, mais on n'est pas à l'abri que ça se réalise. C'est-à-dire que ouais, pour l'instant il y a des indicateurs qui montrent que ça pourrait se réaliser. Bon, et bien sûr, ces notes joyeuses. Ouais, c'est la fin de l'émission. Et oui, c'est la fin de l'émission. En tout cas, voilà, bon, c'est un peu un scénario catastrophe. On est un peu catastrophiste. Oh,
À quelques jours d'Halloween.
Voilà, bon, c'est bien d'avoir peur un petit peu. Ouais. Bon, on fera des émissions un petit peu plus joyeuses hein, sur des solutions et, qu'on peut apporter.
Mais oui, il y a.
Voilà, donc.
Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions.
Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Hein, c'est ce que disait Bob Marley. Non, je rigole, je ne sais pas du tout. Mais bref, on fera des émissions consacrées aux solutions. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé notre émission. N'hésitez pas à partager, liker, ça, peu importe la plateforme où vous écoutez ce podcast. Si vous êtes sur RBFM, je vous le dis encore, hein, il y a la page Facebook, vous pouvez laisser un commentaire. Et puis, sinon, si vous êtes sur d'autres plateformes de streaming, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous avez aimé. Et puis voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée, et puis un bon Halloween pour ce fin.
Eh ben, joyeux Halloween à tout le monde, et puis merci voilà. À tous pour votre écoute.
On se retrouve le mois prochain. Le mois prochain, émission consacrée à nouveau sur le changement climatique et sur l'effet du changement climatique sur les populations d'oiseaux marins avec Aude Boutet, qui est chercheuse et exploratrice. En tout cas, on a hâte de la voir dans le studio, et puis à très bientôt.
À très bientôt.
Allez, salut.
Bonne journée.
Furthermore, the equation E is equal to mc square, in which energy is put equal to mass. Furthermore, the equation E is equal to mc square, in which energy is put equal to mass.
Une émission radiophonique scientifique. Podcastique et radioactive.
On n'est pas du tout des Einstein.
Après, tout est relatif.